Voilà, c'était un long passage. Alors, avant d'en revenir à la carte, pourquoi ce passage? Eh bien, c'est des textes du jour, du lectionnaire. Annie a lu les textes précédents hein, dans la présidence. Et puis, le texte du Nouveau Testament, bah, c'est ce long passage de Actes, la prédication de Paul. Alors, quand j'ai vu que c'était ça pour le 8 mai, je me suis dit, bah, là, la prédication de Paul, il n'y a plus rien à dire, c'est bon, je peux aller me rasseoir, tout est dit. Mais on va quand même voilà, en tirer quelque chose pour nous, des réflexions. Et puis, si vous avez d'autres choses qui vous viennent, vous pouvez aussi prendre la parole. Alors, c'est vrai que ce contexte, on va le rappeler un petit peu, ce long passage, il nous rappelle l'activité missionnaire de Paul. Paul, il a sillonné l'Asie mineure, il a sillonné la Grèce, avec un seul but, c'était annoncer l'Évangile. Et ici, dans ce passage, nous en sommes au premier voyage missionnaire. Alors, si tu veux bien remettre la carte. Voilà, alors, ils sont partis d'Antioche en Syrie. Ils ont pris le bateau, ils sont passés par Chypre, ils sont arrivés à Pergé, sur la côte sud de l'actuelle Turquie. Et de Pergé, ils ont continué à pied. Le texte passe rapidement sur ce voyage à pied depuis Pergé, qui se trouve donc sur une plaine côtière assez fertile. Et ils se sont dirigés vers Antioche, cette fois de Pisidie, qui est beaucoup plus à l'intérieur des terres. C'était une colonie romaine, un centre militaire, administratif. Ce voyage n'a pas dû être facile. La route qui relie Pergé à Antioche du Pisidie passe par des montagnes inhospitalières. Ils ont dû traverser aussi des torrents dangereux. Et en plus, on savait que c'était une zone qui était, où il y avait beaucoup de brigands. Alors pourquoi? Pourquoi prendre tous ces risques? Pourquoi faire ce voyage? Quel était le but? Un seul but, c'était annoncer l'Évangile. Et dès que Paul est arrivé à destination, à Antioche de Pisidie, souvent je dirais Paul, mais c'est Paul et Barnabas, hein, que fait-il? Eh bien, il se rend tout de suite à la synagogue, le jour du sabbat, parce que c'est là que c'est le plus facile pour parler aux Juifs de la ville. Et comme c'est la coutume dans la synagogue, quand il y a quelqu'un de passage, un invité, eh bien on lui laisse la parole. Et donc Paul est invité à prendre la parole et il fait cette prédication. C'est la première prédication de Paul que Luc rapporte. Alors comme je disais au début, elle se suffirait à elle-même. Donc nous voici, tu peux voilà, l'enlever, merci beaucoup. Nous voici donc dans la synagogue d'Antioche, du Pisidie, un samedi matin pour la célébration du sabbat. Plusieurs types de personnes sont réunies, on va dire trois cercles. Le premier cercle, ce sont les juifs de naissance. Le deuxième cercle, ce sont des prosélytes, comme on les appelle, c'est-à-dire des non-juifs de naissance, mais qui ont été attirés par le judaïsme, qui essaient d'en suivre les préceptes, sans aller et y compris la circoncision. Et le troisième cercle, Luc les appelle les païens, dans d'autres versions on dit les craignants Dieu, ce sont ceux qui n'étaient donc pas juifs et qui ont aussi été attirés par le judaïsme, qui essaient d'en suivre les lois, mais qui eux ne vont pas jusqu'à la circoncision. Ils connaissent les Écritures, ils vont à la synagogue puisqu'ils sont présents, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Alors le projet de Paul, il est clair. C'est s'adresser d'abord à ses frères juifs pour leur parler de Jésus de Nazareth. Pour lui, c'est une démarche évidente parce que les apôtres sont tous juifs et considèrent le Messie, le Christ comme le Messie attendu par les juifs. Ils vivent un accomplissement et dans leur logique, un juif qui entendra, qui lit l'Écriture, deviendra forcément chrétien. Donc, tout naturellement, il commence par aller à la synagogue pour essayer de rallier les juifs à leur découverte. Dans l'idée de Paul et d'autres contemporains, quand tout le peuple juif sera converti, alors on passera à la deuxième étape, on entreprendra la conversion des païens. Parce que Paul considérait voilà, que ce plan de Dieu, il avait deux étapes. D'abord le choix du peuple élu, comme on dit, à qui Dieu s'est révélé. Et ensuite, c'est le peuple élu qui devait annoncer le salut de Dieu aux autres peuples, aux païens. Pour exprimer cette logique, dans le plan de Dieu, le prophète Ésaïe avait dit, par rapport à Israël donc, « J'ai fait de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Et d'ailleurs, dans un premier temps, Jésus lui-même avait donné cette consigne à ses disciples en Matthieu 10, verset 5, quand il leur a dit « Ne prenez pas le chemin des païens, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc, d'abord les Juifs et ensuite les païens. Donc, quand Paul se rend à la synagogue, au premier abord, donc, on voit qu'ils reçoivent, avec Barnabas, ils reçoivent un bon accueil, plutôt favorable. Du coup, ils espèrent probablement qu'il va y avoir des conversions. Et le sabbat suivant, ils recommencent à prendre la parole à la synagogue. Et cette fois, il y a beaucoup de gens qui sont venus les écouter. Mais cette fois, il y a aussi de l'hostilité. Et Luc note que ce sont les païens, les craignants Dieu, qui sont le mieux disposés, en tout cas qui sont mieux disposés que les juifs. Il écrit « Les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur ». Peut-être que les juifs avaient des a priori, attendaient déjà un Messie d'une certaine façon, et donc ce n'était pas forcément facile pour eux d'accepter que ce Messie, ce soit Jésus-Christ, qui était mort à la croix, qui avait souffert et qui était ressuscité. Alors, quel est le plan de cette prédication de Paul? Comme toutes les autres prédications rapportées dans le livre des Actes, il y en a quelques-unes, elle commence par un rappel historique qui nous semble peut-être fastidieux, qui constitue la grande partie, la partie la plus longue. Et puis on arrive au message vraiment évangélique, et puis ensuite, ce sont les auditeurs qui sont interpellés pour apporter une réponse. Comme on dit, l'Ancien Testament pointe vers le Nouveau Testament, ou bien on relie l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Si ce rappel historique tient chaque fois autant de place, c'est parce qu'il est très important. Alors c'est vrai que Luc donne une grande place à l'histoire, au point qu'il présente son œuvre. Vous savez que l'évangile de Luc et les Actes, c'est un seul livre. Eh bien, il le présente comme un travail d'historien. Alors on aurait pu imaginer que Paul, il aborde directement le message en parlant de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, parce que c'est quand même ça le cœur de la foi chrétienne. Mais non, il commence par un long rappel de l'histoire d'Israël. Les patriarches, le séjour en Égypte, la traversée du désert, la période des juges, l'instauration de la royauté, pour nous c'est une bonne révision tout ça, jusqu'au baptême administré par Jean dans le Jourdain, et puis enfin l'entrée en scène de Jésus. Et ce rappel de l'histoire, il est important parce qu'il signifie que la foi des chrétiens prend son origine et ses racines dans une histoire. Oui, notre foi s'enracine dans une histoire. Et là où les racines seraient absentes, une foi intellectuelle, alors cette foi serait vacillante. C'est un rappel de l'action de Dieu aussi, pour son peuple, une démonstration de sa fidélité. Dieu a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte. Il lui a donné une nourriture, la manne, dans le désert. Il lui a donné une terre, le pays de Canaan. Il lui a donné des juges pour éclairer le peuple. Bref, il a veillé sur lui. Alors oui, le message évangélique s'inscrit dans une histoire, parce que Jésus, fils de Dieu, est venu s'incarner dans notre réalité humaine. Est-ce que nous sommes conscients aujourd'hui que si nous avons la foi, que si vous avez la foi, c'est parce que vous en avez entendu parler? Et je pensais à nos enfants, nos petits-enfants, à nos jeunes, l'enracinement spirituel qui se fait à la fois à la maison et dans l'église. À la maison, quand vous leur parlez de votre foi, quand tout petit on leur raconte des histoires de la Bible, quand on parle aussi de notre façon de vivre, qu'on explique certains choix, et puis à l'église avec l'école du dimanche, avec le groupe de jeunes, Et puis le culte dominical, même s'il n'y a pas beaucoup de jeunes là parmi nous, qui montre que cette foi, elle est aussi partagée par toute une communauté. Et ça, c'est important que les enfants et que les jeunes s'en rendent compte. Alors, quel est cet héritage ? Après avoir resitué les choses dans leur contexte historique, Paul annonce, on va dire, enfin le message de l'Évangile. Mais là encore, il le fait en citant des passages des Écritures, du livre des Psaumes et du livre de Samuel. En quelque sorte, il s'appuie sur ce qui constitue l'héritage spirituel des Juifs. Et le message évangélique consiste à leur dire que Christ est ressuscité des morts. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui caractérise notre foi chrétienne. Et la prédication de Paul ne reste pas sans effet. Certains croient, et d'autres non. Ça provoque un clivage, une scission. Et pourtant, c'est la même prédication que tous ont entendue. De la même manière, nous ne savons pas toujours quelle réponse quelqu'un donnera au message de la grâce. Pour nos enfants, nous ne savons pas s'ils vont s'approprier l'héritage que nous voulons leur transmettre. Pourquoi les uns croient-ils et d'autres pas? Ça reste un mystère. Personne ne sait, et seulement Dieu qui connaît le secret des cœurs. Cela relève de la liberté de chacun. Dieu a fait de nous des hommes et des femmes libres de dire oui, de dire non, et il respecte cette liberté. Par contre, notre responsabilité à chacun, c'est de continuer à parler de la grâce de Dieu à toute personne. Et puis ensuite, de l'inviter à marcher dans les pas du Seigneur et de l'encourager à vivre en disciple. Alors cet épisode d'Antioche de Pisidie, ça marque un tournant important dans la vie de Paul, parce que c'est là en fait qu'il va décider de modifier ses plans. Il constate que seuls quelques Juifs acceptent de le suivre, et il faut donc abandonner l'espoir de convertir l'ensemble du peuple juif à Christ, au moins dans un premier temps. D'autre part, le refus de la majorité des Juifs ne devrait pas retarder l'annonce de la bonne nouvelle aux païens. Alors Paul se rappelle qu'Ésaïe avait déjà prédit que le petit reste d'Israël sauverait l'ensemble du peuple et l'humanité. Concrètement, ça veut dire que Paul comprend que c'est ce petit reste qui assumera la vocation d'apôtre des nations, qui était celle en fait du peuple juif tout entier. Paul et ceux qui voudront bien le suivre seront ce petit reste. Et c'est exactement ce qu'il dit à Antioche. C'est à vous d'abord qu'il fallait adresser la parole de Dieu, c'était au verset 46. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les païens. Et donc, à partir de ce moment-là, toute leur énergie missionnaire, elle va se tourner vers les craignants Dieu, puis les païens. À Antioche de Pisidie, Paul s'est adressé aux Juifs pour annoncer que Jésus était le Messie attendu et que Dieu l'avait ressuscité. Le succès qu'il a rencontré auprès des craignants Dieu, des païens sympathisants, a rendu les Juifs jaloux et même hostiles. Et Paul a été chassé de la synagogue et même de la ville. Et ça sera pareil dans les chapitres suivants. Il a été chassé d'Icône et de Lystre, où il a même failli être lapidé. Et puis pendant ce temps-là, à Jérusalem, les chrétiens d'origine juive, ils s'inquiètent. Comment être sauvé sans être juif? Sous-entendu, sans être circoncis. L'entrée de non-juifs pose des problèmes à certains croyants qui veulent les obliger à se faire circoncire. Et suite à une vive discussion, Paul et quelques autres représentants de l'église d'Antioche se rendent à Jérusalem pour rencontrer les apôtres et aborder le sujet. C'est ce qu'on appelle la conférence ou le synode de Jérusalem en 49, à laquelle finalement, après des discussions qui ont pas dû être très, qui ont dû être un peu conflictuelles, voilà, il a été décidé de n'imposer aucune charge aux chrétiens d'origine païenne, notamment pas de circoncision. Et ça, ça a été un élément essentiel pour l'essor du christianisme. Paul y a joué son rôle d'apôtre des païens, soutenu par Pierre et Jacques, qui étaient les colonnes de l'église de Jérusalem. Alors, de tout cela, Quelles suggestions, quelles conclusions, quelles pistes de réflexion? J'en propose trois, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Par rapport à ce qu'on appelle notre évangélisation, comment parler de Dieu, de Jésus-Christ autour de nous? Une évangélisation adaptée au milieu auquel on s'adresse. Est-ce que maintenant, si on tenait un discours similaire à celui de Paul, en reprenant depuis les patriarches, etc., est-ce que ça accrocherait quelque chose, hein, quand les gens n'ont pas le contexte, l'arrière-plan religieux? Donc probablement qu'il faut procéder d'une autre façon. Et puis c'est pas seulement par les paroles, hein, vous savez bien, c'est aussi par les actes. Quand on chante que nos actes devraient être empreints d'amour, voilà, le témoignage d'une communauté est aussi un moyen privilégié d'évangélisation. Première remarque. Deuxième remarque, ce ne sont pas ceux qu'on pense le plus accessibles qui seront touchés plus facilement. Paul avait ce plan de se dire d'abord les juifs, ils se convertissent, après on passe aux païens. Parfois, dans des stratégies, j'emploie le mot, je ne l'aime pas, mais voilà, d'évangélisation, on se dit d'abord et ensuite. Et puis ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe. Hein, ce n'est pas ceux qu'on a prévus qui sont touchés, parce que ben, Dieu touche les cœurs et ce n'est pas forcément la façon dont on l'avait prévu. Et puis un troisième point, c'est aussi de se rappeler que tout est grâce. Tout est grâce. Nous pouvons faire des efforts, prévoir des actions, etc. Mais c'est Dieu qui agit. Alors bien sûr qu'il nous l'utilise, il nous utilise. Nous avons à discerner aussi quelle est sa volonté, mais de toute façon, en dernier ressort, c'est lui qui touche les cœurs. Alors, est-ce que ce long passage de la prédication vous a suggéré d'autres pistes? N'hésitez pas, hein, c'est pas celui qui est là qui y pense pour tout le monde. Hein. Donc, on pourra repenser à notre évangélisation, s'il y a des projets, ou comment on le voit, ou individuellement, ou en communauté. Ce n'est pas toujours ceux qu'on prévoit qui sont le plus accessibles, hein, et qui sont touchés. Et puis, de toute façon, dans toutes ces actions, se rappeler que c'est la grâce de Dieu, avant toute chose. Alors, je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton évangile qui est à la fois héritage et rupture. Ton évangile, c'est comme un bateau et nous voulons nous laisser embarquer sur ce bateau. Ton évangile est comme un phare et nous voulons nous laisser guider par lui. Et ton évangile aussi est le port et nous voulons sans cesse revenir à lui. Ancrage d'éternité. Amen.